Chapitre 4. Il avança lentement le long du sombre couloir lambrissé, quelques gouttes de sueur sur le front. Il passa devant plusieurs salles dont il se serait senti obligé d'ouvrir les portes s'il n'avait pas aperçu les élèves au travail derrière les fenêtres. Il jeta un coup d'œil sur la classe de français de M. Bissette et sur la classe de géométrie de M. Knopf. Ses condisciples étaient penchés sur leur cahier, un stylo à la main. Il jeta un coup d'œil sur la classe d'éloquence de M. Harley et vit Stan Dorfman, une de ses connaissances qui n'était pas tout à fait des amis, entamer son discours de fin d'année. Stan paraissait mort de peur, mais Jake aurait pu lui dire qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la peur. La vraie peur.
« Je suis mort. »« Non, je ne suis pas mort. »«
Si. Non. »« Si. Non. » Il arriva devant une porte où il était écrit le mot « fille ». Il l'ouvrit, s'attendant à découvrir le ciel bleu, le désert, les montagnes à l'horizon. Au lieu de cela, il vit Belinda Stevens debout devant un lavabo, les yeux fixés sur la glace, affairée à s'extraire un point noir du front.
« Bon Dieu, qu'est-ce qui te prend d'entrer ici ? » demanda-t-elle. « Excuse-moi, je me suis trompé de porte, je croyais que c'était celle du désert. »«
Hein ?» Mais il avait déjà lâché la porte et elle se refermait sans bruit. Il passa devant le distributeur d'eau et ouvrit la porte marquée « Garçon ». Cette fois-ci, c'était la bonne. Il le savait, il en était sûr. Cette porte allait lui permettre de retourner dans... Trois urinoirs impeccables luisaient à la lumière fluorescente. Un robinet gouttait solennellement dans un lavabo, et c'était tout. Jake laissa la porte se refermer. Il regagna le couloir, ses talons claquant énergiquement sur le carrelage. Il jeta un coup d'œil dans le bureau du principal et n'y vit que Madame Franks. Elle parlait au téléphone, se balançant doucement sur son fauteuil en triturant une mèche de ses cheveux. La clochette couleur argent était posée près du combiné. Jake attendit qu'elle disparaisse à sa vue, puis passa vivement devant la porte. 30 secondes plus tard, il émergeait à la lumière claire de ce matin de mai.
« Je fais l'école buissonnière, » pensa-t-il.
La confusion qui l'habitait ne l'empêcha pas de s'émerveiller de la tournure imprévue que prenaient les événements. Dans 5 ou 10 minutes, Madame Avery remarquera que je ne suis pas revenu des toilettes. Elle enverra quelqu'un y jeter un coup d'œil, et tout le monde sera au courant. Tout le monde saura que je suis parti, que je fais l'école buissonnière. Il pensa à la chemise posée sur son bureau. Ils vont lire ma composition, et ils vont penser que je suis dingue. Fou ! Bien sûr, c'est normal, je suis fou. Puis, une autre voix prit la parole. Il crut reconnaître la voix de l'homme aux yeux de bombardier, l'homme qui portait du revolver sur ses hanches. Cette voix était glaciale, mais néanmoins quelque peu rassurante. « Non, Jake, » dit Roland, « tu n'es pas fou. Tu es perdu et terrifié, mais tu n'es pas fou. Et tu n'as rien à craindre de ton ombre au matin marchant derrière toi, ni de ton ombre le soir surgit à ta rencontre. Tu dois trouver le chemin qui te reconduira chez toi. Voilà tout.
« Mais où dois-je aller ?» murmura Jake.
Il était sur le trottoir de la 50e rue entre Park Avenue et Madison Avenue et regardait filer les voitures. Un bus passa en crachotant un mince sillage de fumée bleue et âcre.
« Où dois-je aller ? Où est cette putain de porte ?»
Mais la voix du pistolero s'était tue. Jake tourna à gauche en direction du fleuve oriental et avança à l'aveuglette. Il n'avait aucune idée de sa destination, pas la moindre idée. Il ne pouvait qu'espérer que ses pieds l'y conduiraient après l'avoir tant de fois égaré.